nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Une grande rousse, un tailleur vert, lui demande.
Votre sous-directrice de votre service, Madame Métard Antoinette, c'est moi qui vous prépare les dossiers. Je suis très fier de travailler avec vous. Il paraît que vous êtes une tête. Ce n'est pas comme l'ancien directeur qui était nul. Il a été pris parce qu'il était le fils du ministre de la Défense. Mais une fois que le ministre a été limogé, nous avons fait la même chose avec le fils. C'était une véritable nullité. Vous avez vu les dossiers qu'on nous demande? Rien d'extraordinaire. Pourcentage, robotisé, rectiligateur, pulvérisidité, domestiquité, yergoïdicaldol, des solutions mathématiques, quoi. Comme vous voyez, c'est très simple. Il n'y a rien compris à ce qu'elle lui a dit. Elle lui dit, « Il est vrai que vous êtes de la famille du comte. » Il est tout rouge et lui dit,
« Dire ?»
Elle lui dit, « Je comprends, il vaut mieux rester discret à cause d'une révolution. Les têtes tombent vite. » Je suis fier, c'est de travailler avec une personne illustre de la France. Je me suis abonné à Chose Vue et voici. Mais, chut, je resterai discrète. Et la soirée se continue. Il entend deux hommes discuter, un grand et un petit de 50 ans, costume gris. Le grand dit,
encore un planqué, parce qu'il est noble.
L'autre lui dit, je suis sûr qu'il ne sait même pas faire une addition.
Il rentre chez lui à 21h.
Ta femme lui dit,
Tu rentres bien tard, il lui dit.
J'ai eu un cocktail de bienvenue.
C'est bien ça.
Je suis épuisé.
Elle lui dit, viens à la salle à manger, j'ai tout préparé.
Elle le mène à la salle à manger.
Le fait asseoir.
Assieds-toi.
La table est mise.
Je me suis servi de son couvert.
Et s'assoit. Et lui donne du velouté d'asperge.
Il lui dit, je crois bien que je ne vais pas rester dans cette place.
Pourquoi ?
Parce qu'il croit que je fais partie de la famille du comte de Paris et que le travail qu'on me donne est trop compliqué.
Elle lui dit,
tu ne peux pas nous faire ça. Que va dire Freddy ? Et où irons-nous ? Puis c'est ton premier jour. Après tu verras.
La nuit, il fait des cauchemars terribles. Il est envahi par des piles de dossiers.
Il part à son travail dans un état de décomposition morale.
Dans la matinée, à son bureau, il a une illumination. Il se dit,
donnez ces dossiers à différents services. J'en garde un ou deux les plus simples. Et pour ce qui est du courrier, je fais venir ma secrétaire pour ça.
Fait le numéro de téléphone.
Allô, dites à Madame Martis de venir d'urgence à mon bureau. Merci.
Deux minutes plus tard, on sonne à sa porte.
Oui.
C'est Madame Martris.
Vous avez demandé, monsieur.
Oui. Venez, j'ai des dossiers à vous donner. Il faut que vous les donniez aux différents services.
Elle s'approche. Il lui donne les dossiers qu'il avait à faire. Et lui dit,
j'ai gardé certains que je ferai moi-même. Chacun de mes services a une spécialisation comptable.
Oui, monsieur.
Bien, donnez les dossiers d'après leur spécialisation.
Bien, monsieur.
Et elle sort du bureau.
En se disant, quel homme ! C'est un vrai chef, celui-là. Un vrai chef.
Prends ton téléphone. Fais un numéro.
Dites à ma secrétaire de venir me voir d'urgence. Il y a des lettres pour elle.
Deux minutes plus tard, on sonne à sa porte.
Entrez.
Entre la secrétaire. Une grande blonde, tailleur rouge.
Venez vous asseoir. J'ai des lettres pour vous.
Bien, monsieur.
Et il lui donne les lettres à faire en lui disant en gros ce qu'elle doit écrire.
Voilà, il a compris qu'un directeur n'était pas fait pour travailler, mais pour distribuer le travail. À la fin de la journée, on lui fait signer les lettres et les chèques. Les jours passent. Tout se passe bien. Sa femme s'habitue à sa nouvelle vie, à son nouvel environnement. Elle prend ses habitudes. Le matin, course, ménage et repas. L'après-midi, promenade dans le quartier. Elle a fait la connaissance de quelques femmes du quartier et va de l'une à l'autre pour le thé ou faire les magasins ensemble. Elle est devenue une grande dame, mariée à un mari qui a une bonne situation. La preuve où ils habitent. Elle continue à être évasive et répond par des choses insignifiantes. Donne des impressions, des sensations, couleurs, températures, odeurs. Évasive, évasive, très évasive. On l'a dit, très instruite et pudique, rindalienne, durassienne, etc., etc. Très cultivée, mais qui cache son savoir par simplicité de grandeur d'homme pour ne pas abaisser les gens qui sont avec elle. Une femme que l'on aime beaucoup et demande et on demande conseil à elle. Elle le fait d'une façon neutre, ce qui lui donne du goût. Et pour les conseils humains, elle est si neutre que les gens sont soulagés. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent de ce qu'elle leur a dit. Les jours passent. Il a reçu sa première paye. Elle a payé les commerçants. On lui a dit : ça ne pressait pas. Vous pensez, une dame comme vous, etc., etc. Les jours passent et toujours pas de nouvelles
de Freddy. Thomas se fait du souci et dit à sa femme.
Il lui arrivait quelque chose, comment ferions-nous?
Elle lui dit, tant que personne ne nous dit de partir, nous restons. Et moi, je veux rester.
Elle ne veut pas quitter ce beau bel appartement et le quartier. Elle y a ses habitudes. Elle est prête à tout pour garder tout ça.
Les jours passent.
Et un soir, qui sont au salon, on a sonné à la porte. Thomas va ouvrir. Ils sont du salon.
Ouvre, c'est Freddy. Bonjour Freddy, entrez. Il entend du salon et se dit, oh là, c'est fini, il va falloir quitter tout ça. Thomas et Freddy entrent au salon. Elle se lève. Bonjour Freddy. Elle va vers lui. Vous avez fait bon voyage?
Oui, merci.
Mais à cause des grèves des transports, je viens en retard. Allons nous asseoir. Et ils vont s'asseoir.
S'empêcher de penser que c'est lui l'intrus et l'invité. Il leur demande, et vous? Thomas lui dit,
j'ai pris ma place. C'est un peu difficile, mais je suis très bon collaborateur.
Le rôle du directeur, c'est d'avoir de bons collaborateurs qui travaillent pour lui. Et vous, Éléonore?
Elle lui dit,
moi, ça va, il lui dit. Je suis sûr que vous êtes très bien adapté à votre nouvelle vie.
Oui,
il lui dit. Vous seriez triste de quitter tout ça.
Oui, surtout que je me suis fait des amis,
il lui dit. Ça peut s'arranger,
Thomas lui dit. Comment? J'ai pas assez d'argent pour payer un appartement comme celui-ci.
Freddy lui dit. Qui vous dit de payer?
Là,
Freddy lui dit, on pourrait faire un petit arrangement.
Elle fait, oh, oui, lequel?
Freddy dit à Thomas, vous voyez, elle est déjà d'accord.
Thomas lui dit, il s'agit de quoi?
Freddy lui dit, vous me rendriez de petits services et je vous laisse habiter ici gratuitement. Moi, j'ai une maison à Versailles, alors.
Tout dépend du service.
Freddy lui dit, c'est très simple. Tous les dossiers que l'on vous apporte, vous en faites une photocopie et vous me les donnez.
Thomas lui dit, c'est du vol. Je ne peux pas. Faites-le vous-même.
Freddy lui dit, je ne peux pas. Je suis du service relations humaines. Pas recherche. Alors,
Thomas lui dit,
vous voulez votre propre entreprise. Pourquoi?
Freddy lui dit, parce que j'ai beaucoup de traite. Je suis comme vous, moi. Alors, c'est vous ?
Thomas lui dit.
Si je refuse ?
Vous ne pouvez pas refuser.
Pourquoi ?
Parce que...
Thomas lui dit.
Je sais, je perds le logement.
Il dit. Et peut-être plus,
Thomas lui dit.
Mon travail aussi ?
Freddy lui dit.
Et autre chose ?
Je ne vois pas.
Vous m'avez signé un papier de 100 000 francs.
Thomas lui dit.
Si je dégrade l'appartement.
Freddy lui dit.
Je vous fais partir. L'appartement est dégradé. Je fais venir un huissier. Et voilà. Et puis, en plus, plus de logement, de travail et une dette de 100 000 francs.
Éléonore se lève et dit à Freddy.
Vous vous êtes joué de nous.
Et oui, ma chère, dès le début, je vous ai fait aimer le luxe après à vous comporter dans le monde pour que vous ayez des amis. La façon de répondre aux questions et tout était pour ça. Le stage pour vous habituer au luxe, le travail, l'appartement prêté, votre façon de vous exprimer qui fait croire que vous êtes originaire d'une grande famille. Tout ça était prévu d'avance. Même avant votre rencontre, j'avais besoin de gens à moi, à ma merci.
Thomas se lève et dit à sa femme,
« Viens, l'on part de suite. »
Freddy rit. Sa femme lui dit,
« À quoi bon ? Il nous a à sa merci depuis le début. »
Thomas dit à sa femme,
« La faute avec tes idées de grandeur. »
Elle lui dit,
« Non, tu oublies que c'est toi qui as amené à la maison ce mec. Moi, je ne voulais pas. »
Freddy leur dit,
« Arrêtez de vous chamailler. Cela ne sert à rien. Et puis, je ne vous demande pas grand-chose. Vous me faites des photocopies de vos dossiers. Ce n'est pas sorcier. Vous êtes directeur de votre service. Et vous restez ici. Continuez à vivre comme si rien n'était. J'ai fait un si bon dossier sur vous, mon cher, que le directeur président vous veut dans le conseil d'administration. »
Thomas lui demande, « Pourquoi ne pas l'avoir fait sur vous, ce dossier ?»
Freddy lui dit,
« Pas. Et puis voler mon propre travail et mon entreprise. Non !»
Thomas lui dit,
« Vous me le demandez bien, à moi !»
Freddy lui dit,
« Vous, ce n'est pas la même chose. Dès le début, je vous ai embauché pour ça. Vous avez été embauché comme espion. Un métier comme un autre. »
Elle lui dit,
« Au début, vous ne nous l'aviez pas dit. »
Il lui dit,
« Simplement par mesure de sécurité. Et un espion s'éduque. Il doit prendre sa place et avoir un rôle dans la société. » C'est ce que vous êtes devenu, vous, une femme bien sur tout rapport, et lui un directeur d'une grande entreprise. Personne ne songerait à vous faire une enquête sur vous. Et il fallait que vous soyez cela avant de commencer le travail, et pour que vous puissiez l'être, il fallait que vous ne sachiez rien. Cela, vous avez joué votre jeu pour de vrai. Sans tricher. Et si une personne aurait fait une enquête sur vous avant l'embauche, il n'y aurait rien. Il n'y aurait rien trouvé parce qu'il n'y avait rien à trouver. Voilà. Vous êtes mes pions, des pions inviolables et sans tache.
Thomas lui dit,
nous sommes à votre merci. Et votre chose, qu'allez-vous qu'allez-vous nous faire faire ?
Ce que je vous ai dit.
Oui, mais après. En plus. Car il y aura sans le doute d'autre chose, puisque nous sommes à vous. Vous pouvez tout vous permettre.
Freddy lui dit, vous avez parfaitement compris. Tenez-vous prêt à tout.
Il sourit et dit,
ne craignez rien, madame. Vous serez toujours ici.
Pourquoi ces vols ?
Pour l'argent. Et puis la société ne doit pas évoluer, prendre de l'importance.
Thomas demande,
vous travaillez pour les Américains ?
Non, pourquoi ? Pour moi et pour autre chose. Mais vous n'avez pas le droit de savoir.
Il se lève et leur dit,
je reviendrai dans une semaine chercher les copies.
Thomas lui demande,
vous ne déchirez pas le papier ?
Non, on ne déchire pas. Un papier de valeur.
Il sort de l'appartement. Il quitte le séjour. Il est parti.
Thomas et sa femme sont restés au salon. Or qu'il est parti,
il dit à sa femme, nous sommes dans le beau drap.
Elle lui demande, que vas-tu faire ?
Obéir.
Et si tu te fais prendre ?
Nous irons en prison.
Le lendemain matin, lorsque la secrétaire vient lui apporter les dossiers à voir, il tremble de peur.
Si, mademoiselle, pouvez-vous me dire où se trouve la photocopieuse ?
Elle lui dit, oh, elle est dans mon bureau, monsieur. Si vous voulez, je peux vous faire des photocopies.
Non, merci, j'aimerais le faire moi-même.
Elle lui dit, je peux vous amener la photocopieuse dans votre bureau. Elle est sur roulette.
Oui, merci, j'ai pas mal de choses à photocopier ces temps.
Je vais vous aider.
Non, merci. Je le ferai. Vous avez suffisamment de travail. Merci beaucoup.
Elle sort du bureau en se disant qu'il est vraiment gentil et beau gosse.
En une heure, tout le monde sait que le directeur est bon, beau
et qui n'a pas peur de mettre la main à la pâte. Elle lui apporte la photocopieuse. Le PDG, qui apprend ses bruits, se dit
« Nous avons bien fait d'embaucher un homme comme lui, travailleur et bonhomme d'équipe. »
Parce qu'il fait de nombreuses photocopies, le service décide de lui en acheter une, avec l'accord du PDG. Les autres directeurs en font autant. À la fin de la semaine, dans la soirée,
on sonne chez lui. Thomas va ouvrir. C'est Freddy.
Bonjour, je peux entrer?
Oui, bien sûr. Vous êtes chez vous.
Il entre. Thomas ferme la porte et dit
« On va au salon ?»
Et ils y vont. Ils s'assoient.
Il demande. Votre femme n'est pas là?
Non, elle est chez une amie. Elle joue au bridge. Moi, j'aime pas jouer.
Freddy lui dit. Attention, elle va perdre.
Thomas lui dit. Elle ne joue pas de l'argent.
Freddy demande. Vous avez eu une bonne semaine?
Oui. En fait, je fais ce que je peux. Heureusement que j'ai de bons collaborateurs. Autrement, je ne peux rien faire.
Oui. Mais vous êtes très bon. L'on dit que vous travaillez comme un dingue.
Thomas lui dit. Celui qui était avant moi ne devait pas faire beaucoup.
Freddy lui dit.
Vous avez même une photocopieuse dans votre bureau.
Thomas lui dit.
Je vois ce que vous voulez dire. Oui. Je fais, mais un jour... L'on va me demander pourquoi j'ai cette machine. Qu'est-ce que je pourrais leur dire?
Freddy lui dit. Vous leur direz que vous photocopiez des passages des dossiers pour vérifier et pour éviter de les garder trop longtemps, pour les donner à la comptabilité le plus vite possible. On va encore vous féliciter pour ça.
Thomas lui demande. Vous voulez boire quelque chose?
Oui, un bonbon.
Thomas se lève pour aller le lui chercher dans au bar.
Et il le sert.
Tenez.
Merci.
Puis s'assoit. Il se sert un verre, lui aussi.
Thomas lui demande, je vais faire ça pas longtemps.
Non, peut-être. Enfin, tout dépend. Si l'on va fusionner ou non. Parce que si on fusionne, ça n'a plus d'importance. Ce qui est à moi est à eux, Thomas lui dit.
Et à eux, à moi.
Non, pas dans l'autre sens. Il termine son verre et dit. Je peux avoir les copies?
Oui, bien sûr.
Il se lève et sort du salon. Il va à son bureau. Ouvre le tiroir du bureau, en prend les dossiers et revient vers Fred. Quitte le bureau et retourne au salon. Il est 8 ans.
Voilà, merci.
Freddy les ouvre, le regarde, il dit.
C'est bien mince.
Demande lui dit.
J'ai tout fait, mais en ce moment, ils étudient. Il faut attendre. Ils ont des difficultés. Sur la notion de la différence entre l'être et la machine. Le robot comprend quelque chose qui bouge sur lui, parle, mais ne voit pas la différence entre un être qui lui parle ou une machine ou un animal.
Freddy lui dit, lorsqu'ils fusionneront, ils trouveront. Bon, je vais vous quitter. Continuez. Il se lève. Thomas leur accompagne. Avant de partir, Thomas lui demande
« Et si je suis pris ?»«
Vous ne serez pas pris, je vous le promets. Bonne nuit. »
Et il va vers la sortie et sort.
Rentre dans sa voiture. Et rentre chez lui. Il habite une maison dans les environs de Versailles, une petite maison de 2 étages du 18e au fond d'un parc.
La maison est toute blanche. Le parc est entouré de hauts murs très épais. Il y a un perron pour accéder à la maison. La maison est meublée Louis XVI. Freddy a eu cette maison de ses parents.
Arrêter sa voiture devant le portail. Sort de voiture pour ouvrir. Il fait nuit noire. Il ouvre le portail et retourne dans la voiture. Sort de voiture pour aller refermer le portail. Puis, il retourne dans sa voiture.
Dans le parc de sa propriété.
Il sort de voiture et va ouvrir la porte de sa maison. Il entre, éclaire et monte au premier. Arrivé au premier, il va au salon. Entre. S'assoit dans un fauteuil pour lire le dossier. Thank you.
Une heure après, il se sent fatigué.
Prend le dossier. Sort du salon. Et descend au rez-de-chaussée. Arrivé au rez-de-chaussée, il entre dans la cuisine. Éclair. Et là, il se met un califourchon à terre. Enlève une dalle. Elle est creuse. Mets dans le creux le dossier. Et remets la dalle en place. Te relève. Et sors de la cuisine. Et il monte jusqu'au deuxième étage. Arrivé au deuxième étage, il ouvre la porte de sa chambre. Une fois dans sa chambre, il se déshabille. Et va dans la salle de bain prendre une douche.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.